Seul sur l'île. Les parents de Michael ont décidé de partir à l'aventure sur leur voilier. Mais une nuit, pour rattraper sa chienne qui aboie sur le pont, Michael laisse échapper son ballon de foot et est projeté à la mer par un violent coup de vent. Je fus réveillée par une sorte de hurlement, comme le hurlement du vent dans les aubans. Je regardai autour de moi. Pas de auban au-dessus de moi, pas de voile. Pas de mouvement au-dessus de moi non plus. Pas un souffle de vent. Stella Artois aboyait, mais comme si elle était loin. Je n'étais pas du tout sur un bateau, j'étais allongée sur le sable. Le hurlement devint de plus en plus strident, un crescendo effrayant de cris perçants qui s'évanouirent, ne laissant que leur écho. Je m'assis. J'étais sur une plage, une vaste étendue de sable blanc avec des arbres touffus et une végétation luxuriante derrière moi qui descendait jusqu'à la plage. C'est alors que je vis Stella. Elle pataugeait sur le rivage. Je l'appelai et elle vint en bondissant et en remuant follement la queue pour me faire la fête. Quand elle eut fini de me sauter dessus, de me lécher et que je l'eus serrée dans mes bras, je tentai de me lever. J'étais très faible. Je regardais autour de moi. L'immense mer bleue était aussi vide que le ciel sans nuages. Pas de Peggy Sue, pas de bateau, rien, personne. J'appelais 100 fois mon père et ma mère. Je les appelais jusqu'à ce que les larmes m'empêchent de continuer, jusqu'à ce que je comprenne que cela n'avait aucun sens. Je restai là un moment, essayant de savoir comment j'étais arrivée sur cette plage, comment j'avais pu survivre. J'avais le souvenir très confus d'avoir été hissée à bord de la Peggy Sue. Mais je voyais bien que c'était impossible. C'était sûrement un rêve, rien qu'un rêve. J'avais dû me cramponner à mon ballon et flotter jusqu'à ce que les vagues me rejettent sur le rivage. Je pensais alors à mon ballon, mais je ne le vis nulle part. Stella, bien sûr, ne se posait pas autant de questions. Elle continuait à m'apporter des bouts de bois pour que je lui lance et courait après eux dans la mer sans se faire le moindre souci. Le hurlement revint dans les arbres et les poils de Stella se hérissèrent sur son cou. Elle fonça sur la plage en aboyant sans arrêt jusqu'à ce qu'elle soit sûre d'avoir fait taire le dernier écho. C'était un cri plaintif cette fois, pas menaçant du tout. J'eus l'impression de le reconnaître. J'avais déjà entendu ces cris un jour en visitant le zoo de Londres. « Des gibbons, ces giga-gibbons !» comme avait dit mon père. Je ne sais toujours pas pourquoi il avait dit ça. Mais j'avais trouvé ces mots amusants et c'est sans doute la raison pour laquelle je me rappelais leurs cris. « Ce sont simplement des gibbons !» dis-je à Stella. « Juste des giga-gibbons. Ils ne nous feront pas de mal. » Mais je n'étais pas sûre du tout d'avoir raison. De là où je me trouvais, je pouvais voir que la forêt devenait moins dense sur le flanc d'une grande colline à l'intérieur de l'île et je me dis que si j'atteignais la roche nue qui était au sommet, j'aurais une vision plus large de la mer. Ou peut-être y avait-il une maison, une ferme à l'intérieur de l'île ou encore une route ou quelqu'un qui demandait de l'aide. Mais si je quittais la plage et que mes parents arrivaient pendant ce temps-là? Je décidai quand même de tenter ma chance. Je me mis à courir, Stella sur mes talons, et me retrouvai bientôt sous l'ombre rafraîchissante des arbres. Je découvris un sentier étroit qui montait sur la colline, dans ce qui me parut être la bonne direction. Je le suivis donc.